Aujourd'hui, donc, nous recevons M. Pierre Livage, Jacques Livage, excusez-moi, donc, qui est professeur à l'université Pierre et Marie Curie, qui est spécialiste de la chimie du solide, qui est membre correspondant de l'Académie des sciences, membre de l'Institut universitaire de France. Il est, depuis 1995, président de la division chimie du solide de la Société française de chimie, et il est par ailleurs directeur au CNRS de l'unité intitulée Matériaux inorganiques. Il a publié plus de 350 articles et il est membre de nombreux comités scientifiques dans des revues spécialisées. Voilà, je vous remercie et je lui laisse la parole.
Dans le mot matériau, il y a matière. Mais encore faut-il, pour que la matière devienne un matériau, qu'elle présente un certain nombre de propriétés qu'on appellerait propriétés d'usage, c'est-à-dire qui vont justifier le fait qu'on va l'utiliser comme un matériau. Et les relations qu'il peut y avoir entre la structure de la matière d'un côté et ses propriétés, ça a été fondamentalement tout le développement de la science des matériaux au cours du XXe siècle. Il y a un autre point que l'on oublie parfois, c'est la forme. C'est-à-dire que la matière, pour qu'elle puisse être utilisée en tant que matériau, il faut non seulement qu'elle ait une propriété, mais qu'elle ait une forme adaptée à l'utilisation de cette propriété. Alors, si on parle rapidement, matière, c'est plutôt le domaine de la chimie, propriété de la physique, et puis la forme, c'est plutôt ce qu'on appellerait le process, la mise en forme au point de vue industriel. Alors, juste pour illustrer ce point sur la forme, j'ai pris un exemple ici qui est un matériau que vous connaissez bien, qui est le verre banal, et vous voyez que selon la forme que l'on va donner à ce matériau, on va utiliser telle ou telle propriété. Alors, par exemple, le verre plat, donc un vitrage, ça va être la transparence optique pour faire des fenêtres. Un verre creux, c'est typiquement ce qu'on appelle une bouteille. Ça va être, d'une part, les propriétés mécaniques et l'inertie chimique qui va permettre de contenir un liquide sans qu'il soit altéré. Si on prend de la laine de verre, donc des fibres relativement courtes, vous allez utiliser les propriétés d'isolation pour faire de l'isolation thermique ou de l'isolation acoustique. Si vous prenez des fibres un peu plus longues, et bien c'est quand on fait par exemple des coques de navire avec des polymères, ça sert de renforcement, ce sont les propriétés mécaniques. Si on fait simplement un petit film de verre à la surface d'un objet, ça va donner un éclat, et c'est typiquement de l'émail ou du glaçage. Par conséquent, cette notion de forme, c'est quelque chose qui est très important. Alors c'est quelque chose qui est très important, et c'est aussi, je dirais, une des premières manifestations de l'homme, et du fait que l'Homo habilis s'est séparé des primates. C'est au moment où il a utilisé le silex en lui donnant une forme de façon à l'adapter à l'usage qu'il voulait faire. À ce moment-là, le silex, qui était juste une pierre, de la matière, est devenu un matériau capable de couper, de gratter, etc., de taper, selon la forme qu'on lui donnait. Alors ça, c'était il y a à peu près 3 millions d'années, et il a fallu attendre encore quelques millions d'années pour faire le pas suivant, et le pas suivant, c'est évidemment la découverte du feu. Alors la découverte du feu qui présente deux avantages. Un avantage, je dirais, déjà sur le plan de la matière, à savoir qu'avec la température, avec le feu, vous allez pouvoir transformer la matière, faire des réactions, faire réagir des choses ensemble. Vous allez pouvoir, par exemple, séparer le métal d'un minerai. Et c'est évidemment l'âge du cuivre, l'âge du bronze, l'âge du fer. C'est-à-dire au fur et à mesure que l'homme a été capable de faire des températures de plus en plus élevées, il a pu travailler des métaux, cuivre, fer, etc. Au 19e siècle, l'aluminium. Au 20e siècle, sans doute, ce sera l'âge du silicium. À chaque fois, la technologie a développé. Et autre chose aussi, bien évidemment, le feu va permettre aussi de réaliser des opérations de mise en forme différentes de celles de la pierre taillée ou de la pierre polie. Alors, je vais surtout aujourd'hui parler des verres, plus que des céramiques, mais on pourrait parler de la céramique, ce serait à peu près parallèle. Alors le verre, pourquoi je parle du verre ? Ben parce qu'en fait, le verre est né du feu, et vous savez bien que pour faire un verre, il faut fondre du sable à très haute température, c'est-à-dire au-dessus de 1000 degrés, et ensuite vous prenez ce sable en fusion, et c'est le fait qu'il y ait une fusion pâteuse, c'est-à-dire qu'en se refroidissant avant de donner un solide, le verre que vous connaissez, ça donne une espèce de pâte, et à ce moment-là, on peut faire l'opération de mise en forme. Ici, j'ai représenté l'opération du soufflage, qui est quelque chose qui est relativement récent, hein, puisque le verre a été découvert vers 3000 ans avant Jésus-Christ, et que c'est guère que le siècle juste précédent Jésus-Christ qu'on a inventé le soufflage. Donc le verre est né du feu, et si l'on en croit Pline l'Ancien, La découverte du fer, donc à peu près 2500 avant Jésus-Christ, a été due à des marins égyptiens. Alors, des marins égyptiens qui transportaient du natron. Le natron, c'est un produit, un sel de sodium, qui servait pour la momification, pour dessécher les corps avant la momification. Ils transportaient cela, et puis un soir, ils se sont arrêtés sur une plage de Phénicie, c'est-à-dire vers le Liban, à côté d'une rivière qui apparemment s'appelle Bélus, et ils ont fait un bivouac. Donc, ils ont allumé un feu. L'homme avait déjà découvert, hein, quelques milliers d'années avant, comment faire du feu. Il n'y avait pas de blocs de rochers sur la plage, et par conséquent, ils ont pris les blocs de natron pour entourer le feu, pour poser leur marmite. Et le lendemain, quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Bien, ils ont vu que le sable avait fondu. Il avait fondu pour donner une espèce de masse vitreuse, bien, il avait fait du verre. Et en fait, le feu avait eu, je dirais, deux effets. Premièrement, un effet sur la matière. Il avait permis au sable de réagir avec le natron, c'est-à-dire du carbonate de sodium. L'ensemble avait fondu et avait fait une espèce de pâte qui était le verre. Alors en fait, le verre que l'on utilise aujourd'hui n'est guère différent de celui-là. Il y a eu bien sûr des progrès technologiques importants, ne serait-ce que sur la qualité du verre. À l'époque, il n'était évidemment pas transparent. Maintenant, on a du verre qui est parfaitement transparent. Sur la technologie de production du verre, on peut sortir 1 million de bouteilles par jour, ce qu'évidemment, on ne savait pas faire du temps des Égyptiens. Mais le matériau lui-même, c'est-à-dire sa composition chimique, pratiquement est la même que celle des Égyptiens. C'est-à-dire, c'est le verre courant, c'est typiquement des composés de silice, de soude et de chaux. Et la façon de le faire, ben, c'est toujours un peu la même, c'est-à-dire qu'on utilise le feu pour faire la mise en forme, c'est fusion-couler et utiliser le fait que le verre, quand il est à une certaine température de quelques centaines de degrés, est pâteux et donc on peut lui donner une forme. Alors la question qu'on peut se poser, vous avez eu un magnifique exposé sur le verre il y a à peu près une semaine, dont je reviendrai par-dessus, on vous a dit tout ce qu'on pouvait faire avec le verre, mais toujours selon des procédés de ce style-là. Donc la question qu'on peut se poser, c'est, à l'aube du troisième millénaire, est-ce que l'on en est encore au temps des Égyptiens, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire des verres de même composition et toujours par des procédés de fusion? Alors pour répondre à cette question, ce que je vous propose, c'est de revenir 2500 ans avant Jésus-Christ, sur la plage en Phénicie. Mais cette fois-ci, au lieu de regarder ce qui s'était passé sous le foyer, sous le feu, on va tourner notre regard de l'autre côté, du côté de la mer. Et on va regarder en particulier ce qui se passe dans le plancton. Et si vous regardez dans le plancton, vous avez des micro-organismes, des algues comme les diatomées, des protistes comme les radiolaires. Et ces micro-organismes fabriquent de la silice amorphe, c'est-à-dire du verre. Et vous voyez qu'ils sont capables de fabriquer des architectures de silice tout à fait extraordinaires quant à leur forme. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire dans cette affaire-là, c'est qu'évidemment, le plancton dans l'eau de mer n'a pas été chauffé à 1000 degrés. Tout ça, c'est fait à température ambiante. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, premièrement, il est possible de faire du verre, de la silice amorphe, à température ambiante. Comment ? On verra. Et deuxièmement, ce verre que l'on fait va être compatible avec la vie, avec la biologie. Et donc, c'est cela un petit peu qui va être ce que j'appellerais la chimie douce, c'est-à-dire une autre façon de fabriquer les matériaux. J'avais mis en dessous que la production de silice par les diatomées, c'est des gigatonnes par an, c'est énorme. Alors comment se fait cette silice-là ? Ben, en fait, la silice, elle vient des sols. Vous savez bien que 80% ou peut-être plus, je ne sais pas exactement, des roches sont des silicates. Et lorsque vous avez la pluie, l'érosion, une partie de ces silicates se dissout forcément progressivement dans l'eau et va jusqu'au lac, aux rivières et à la mer. Donc vous avez dans la mer de la silice dissoute en très très petite quantité, et elle est dissoute sous forme moléculaire, c'est-à-dire l'espèce que j'ai représentée ici, le silicium entouré de 4 groupements OH, ce que l'on appelle l'acide silicique. Et c'est à partir de cette matière première, très diluée dans l'eau de mer, que les diatomées, les radiolaires vont faire le squelette de silice par une réaction qui est marquée ici, qui est une réaction qu'en polymérisation, ceux qui font des polymères organiques, des matières plastiques, appellent de la condensation. Si vous prenez 2 groupements SIOH, vous enlevez une molécule d'eau, et vous voyez que si on enlève une molécule d'eau ici, on a un oxygène qu'on appelle en langage verrier pontant, c'est-à-dire qu'on a pris 2 unités moléculaires, on les a réunies ensemble avec un pont oxygène. Et si on continue le processus, eh bien on aboutit finalement à de la silice. C'est ce que font les radiolaires, c'est ce que font les diatomées. Alors, chose remarquable, à température ambiante, avec des quantités de silice dissoute extrêmement petites, et aussi à des pH qui sont bien sûr des pH voisins de 7, les milieux dans lesquels la vie peut se propager. Autre chose remarquable, c'est aussi la division cellulaire chez les diatomées. Alors, j'ai représenté ici une diatomée. Une diatomée, c'est une algue qui se protège par une espèce de coque en silice que vous voyez ici. Il y a d'autres formes, vous en avez vu juste avant. Et c'est un peu comme une boîte de camembert, c'est-à-dire que la cellule, c'est un protiste unicellulaire, est à l'intérieur et elle se protège par cette coque de silice poreuse, donc qui permet les échanges avec le milieu extérieur. Et au moment de la division, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, vous allez avoir la cellule qui va s'étirer et qui va s'affiner au milieu, ce qui est représenté ici, et qui va finalement donner deux cellules filles. Mais chaque cellule fille ne va emporter que la moitié de la boîte, soit le couvercle, soit le fond. Et bien évidemment, pendant le temps où la cellule n'est que dans une moitié de boîte, le reste, est, vis-à-vis du milieu extérieur, est extrêmement fragile. Donc il faut que la diatomée se dépêche de fabriquer l'autre partie qui manque, le couvercle qui va manquer. Et ce qui est remarquable, c'est que dans les conditions qui sont là, c'est-à-dire conditions biologiques, elle va se faire ça en une ou deux heures. Ce qu'on est parfaitement incapable de faire dans les meilleurs laboratoires de chimie qui travaillent sur le sujet. Donc il y a là un modèle biologique qui est extrêmement intéressant, parce que comment se débrouillent-elles pour faire leur silice ? Et c'est intéressant parce que la silice, c'est quand même un produit industriel extrêmement important pour tout un tas d'applications dans le domaine des céramiques, des verres, etc. Donc voilà un petit peu poser le problème. Alors comment peut-on faire ? Ça, c'est une science, un domaine scientifique des matériaux qui s'est développé depuis une vingtaine d'années. Il faut peut-être... Une vingtaine d'années, en fait, il faut faire SiOH 4 fois cet acide silicique. Alors, c'est pas très sans que pour autant il réagisse. Hein. Alors, c'est pas très difficile. On part d'un composé qui s'appelle un alkoxyde. C'est simplement le silicium. Le silicium est toujours entouré de quatre groupements qui sont non pas des groupements H, mais des groupements OR, où R est un groupement organique très simple, méthyl, éthyl, butyl, propyl, enfin les groupements organiques les plus simples. C'est un produit commercial qui est utilisé dans la chimie des silicones ou même dans la production de silice industrielle dans certaines productions, par exemple pour faire des abrasifs dans les pâtes dentifrices ou des choses comme ça. Donc c'est un produit relativement courant. La seule chose que vous ayez à faire dans cette affaire-là, c'est de verser de l'eau. Vous versez de l'eau, à ce moment-là, les groupements organiques vont partir et donner des groupements OH. C'est-à-dire que dans cette première étape, on se retrouve à l'étape de la diatomée, SiOH 4 fois. Et ensuite, l'affaire se fait tout seul. La réaction se fait toute seule. Réaction de condensation entre deux OH et vous obtenez de la silice. Donc, c'est une chimie extrêmement simple. Vous avez un bécher dans lequel vous avez l'alkoxyde. Vous versez de l'eau et en quelques, ici malheureusement quelques semaines, vous allez avoir un verre de la silice. Bien sûr, on peut, par des procédés de catalyse, accélérer le processus et obtenir de la silice, non pas en quelques semaines, mais en quelques minutes ou quelques dizaines de minutes. Donc voilà le procédé que je vais développer ici en essayant de montrer un petit peu quels sont les horizons qui peuvent être ouverts par un tel procédé. Alors, si on fait cela, vous voyez bien que le principe de base est complètement différent de celui de la fabrication du verre à haute température. C'est vraiment de la polymérisation. On va faire un verre, on pourrait faire une céramique de la même façon, comme on fait une matière plastique, comme on fait un polymère. C'est-à-dire qu'on prend un monomère, c'était l'alkoxyde dont je venais de parler, on en met deux, trois ensemble, c'est ce qu'on appelle des oligomères, des petites espèces encore moléculaires, puis les espèces grossissent au fur et à mesure qu'on les met ensemble, pour atteindre des tailles qui font quelques dizaines de nanomètres. Quelques dizaines de nanomètres, c'est ce qu'on appelle des colloïdes, et ça forme ce qu'on appelle des sols, des solutions colloïdales, ou des gels, d'où le fait que le procédé en question s'appelle le procédé sol-gel, parce qu'on passe par des étapes intermédiaires qui sont des sols ou des gels, et on aboutit finalement à un verre qui est de la silice SiO2, qui est donc un solide. Alors, quels sont les avantages de ce procédé-là ? Il y a un premier, bien évidemment, ça se fait à température ambiante et non pas au-dessus de 4000 degrés, par conséquent, on économise de l'énergie. C'est un premier avantage, ce n'est pas le principal, à mon avis. Deuxième avantage, c'est de la chimie. On construit le matériau brique par brique. Et donc, si on comprend bien ce que l'on fait, on va être capable de mettre les briques de façon programmée, comme ça, etc. Donc, on va vraiment maîtriser ce que l'on fait et fabriquer des matériaux sur mesure. Ce n'est pas tellement ce point-là que je vais développer aujourd'hui. Point très important, on part d'un liquide, d'une solution, on arrive à un solide. Donc, quelque part au milieu, on a des viscosités qui augmentent et qui sont un peu des viscosités pâteuses, c'est-à-dire parfaitement adaptées à de la mise en forme. Pour donner l'exemple, à un moment donné, ça va ressembler à de la peinture. Si ça ressemble à de la peinture, ça veut dire qu'il va être extrêmement facile de le déposer pour faire un revêtement. C'est là l'application industrielle la plus importante de ce genre de procédé. Mais on peut aussi tirer une fibre, et donc faire des fibres de silice à température ambiante, et non pas au-dessus de 1000 degrés. On peut aussi donner des formes comme des petites billes ou des choses comme ça. Donc il y a des procédés de mise en forme originaux, directement à partir de la solution, sans passer par les poudres et les techniques de frittage, etc. de l'industrie. Et puis le point que je développerai sans doute le plus, c'est de la chimie douce. Ça se fait à température ambiante et par conséquent, c'est compatible avec la chimie organique, avec la biologie. Alors, quelques exemples quand même d'applications déjà actuelles de cette affaire-là. Je représentais ici schématiquement des procédés d'élaboration, de mise en forme pour faire des revêtements. Alors, vous avez par exemple ici ce qu'on appelle le deep coating, je n'ai pas de traduction très, très jolie en français. C'est utilisé dans l'industrie verrière, pour faire des vitrages. Donc, c'est des vitrages qui font 3 mètres sur 4, 12 mètres carrés. Vous trempez le vitrage à l'intérieur d'une solution ici, qui est une solution d'alkoxyde. Vous ressortez, l'humidité de l'air suffit pour faire la réaction chimique. Donc, vous avez les réactions de transformation d'alkoxyde en silice qui se font simplement à l'air, et ensuite, bien évidemment, vous chauffez à 300-400 degrés de façon à durcir le revêtement. Ça vous permet de faire des revêtements sur des vitrages, des deux côtés du vitrage. C'est un brevet qui avait été pris par Schott en Allemagne dans les années 1939, je crois, et qui a été utilisé effectivement après-guerre dans les années 1960. Ça permet de faire des grandes surfaces. Si vous avez des petites surfaces, c'est la méthode de la tournette qui est extrêmement pratique. Vous avez le substrat qui est sur une centrifugeuse, vous le faites tourner et vous déposez une goutte. La goutte, bien sûr, par force centrifuge, va s'étaler et va donner un film mince à la surface du substrat. Et ça va être plutôt pour des petites surfaces, des écrans de télévision, des miroirs ou des choses comme cela. Alors, quelques exemples de réalisation. Puisque j'avais cité Schott, qui est la première industrie à avoir breveté cette affaire-là, voilà le centre de recherche de Schott à Iéna. Vous voyez qu'il y a des vitrages, comme dans les tours de la Défense, donc c'est des vitrages modernes. En général, on met un film à revêtement à la surface de façon à améliorer les qualités optiques et puis aussi à multiplier le prix par un facteur non négligeable, donc pour avoir une plus-value par rapport à la matière brute. Et ces vitrages sont faits par la méthode de deep coating dont je viens de parler. Le vitrage est simplement trempé d'une seule fois à l'intérieur de la solution d'alkoxyde. On peut faire des devantures de magasin. Alors là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une partie qui a été traitée, celle qui est ici, et celle qui n'a pas été traitée là. Et vous voyez que là où le verre n'a pas été traité, il y a des reflets. Donc ce que l'on a mis ici, c'est un revêtement anti-reflet qui permet de voir à travers la vitrine sans être gêné par la lumière incidente. Ça, c'est aussi une production industrielle. Une autre, c'est pour améliorer le contraste optique dans un écran cathodique, dans un écran d'ordinateur, toujours un peu fatigant. Vous avez un verre qui est ici avec un revêtement qui permet d'améliorer le contraste. Pour revenir en France, c'est au CEA que l'on a développé des procédés Sol-Gel, et c'est en particulier le laser mégajoule, c'est-à-dire les expériences qui vont consister à faire de la fusion thermonucléaire contrôlée de façon à éviter les tirs nucléaires à Mururoa, puisqu'ils sont supprimés. Ça va se faire à Bordeaux. La manip, ça consiste à prendre une cible où il y a du tritium, etc., et à focaliser des lasers de très forte puissance de façon à faire des températures très élevées et à déclencher la fusion thermonucléaire. Alors, ces lasers de très forte puissance, il faut bien sûr qu'ils soient guidés par des optiques, des lentilles, des miroirs. Et vous devinez que s'il y a des reflets, à chaque fois, on va traverser l'optique et on va perdre une partie. Et il y a 450 mètres de parcours sur lesquels il y a quelques dizaines d'optiques différentes. Donc, il faut éviter de perdre de la lumière, de la puissance par réflexion et donc mettre des couches anti-reflets. Alors, voilà la manip qui est faite au CEA. Il s'agit là d'une lentille qui peut avoir 80 cm de diamètre et qui est revêtue simplement par la méthode de trempage dont j'ai parlé tout à l'heure, avec des revêtements typiquement ayant, on joue sur les indices optiques avec des revêtements d'oxyde de silicium, d'oxyde de titane. On peut faire des surfaces plates. Ça, c'est un miroir qui a été revêtu de la même façon, toujours au CEA. Donc voilà pour les, je dirais, applications immédiates. Deuxième volet,
le fait que l'on est en train de jouer avec de la chimie douce.
Alors de la chimie douce, ça va nous conduire à des matériaux alors qui sont totalement originaux, qui n'existent pas dans la nature, qui sont des verres hybrides organominéraux. Alors pourquoi on peut faire cela ? Ben simplement parce que les conditions dans lesquelles on est en train de faire le verre, c'est pas au-dessus de 1000 degrés, c'est à température ambiante, en solution, en général dans un solvant organique tel que de l'alcool ou du benzène, avec des précurseurs moléculaires qui sont des composés métallo-organiques, c'est-à-dire exactement dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles travaillent nos collègues organiciens. Donc on ressoude les deux disciplines, chimie minérale et chimie organique, qui s'étaient séparées au XIXe siècle. Et on peut faire des matériaux de cette façon-là, dans lesquels les espèces minérales, la silice, et organiques, sont mélangées à l'échelle moléculaire. C'est des véritables nanocomposites. Et on peut varier les teneurs respectives de 100% de silice à 100% d'organique. C'est-à-dire que vous couvrez toute la gamme des matériaux qui vont des polymères plastiques normaux, que vous connaissez, au verre fragile, avec toutes les propriétés intermédiaires. Donc vous voyez qu'il y a là un éventail de matériaux nouveaux extrêmement important qui s'ouvre. Alors dans cette voie-là, le domaine qui est actuellement le plus développé, c'est ce que l'on appelle l'optique sol-gel. Alors l'optique sol-gel, ça consiste essentiellement à piéger à l'intérieur de cette matrice de silice, à piéger un colorant organique. La manip est extrêmement facile, le colorant organique va être soluble dans l'alcool, comme l'alkoxyde. Donc vous avez ici une solution dans laquelle vous avez l'alkoxyde plus les molécules organiques. Vous rajoutez de l'eau, la molécule organique va rester indifférente et l'alkoxyde va donner la silice. Donc vous avez un réseau d'oxyde de silicium solide qui va se former progressivement et à la fin de l'opération, les molécules organiques vont se trouver piégées à l'intérieur d'un verre. Alors on peut mettre tout un tas de colorants, soit pour avoir simplement de la coloration, soit on met des colorants qui sont susceptibles d'émettre de la lumière pour faire de la luminescence, soit des colorants qui sont capables de changer de couleur sous irradiation, c'est le photochromisme, de l'optique non linéaire pour faire des doubleurs de fréquences dans de l'optoélectronique, des systèmes laser, etc., etc. Je développerai simplement un exemple, celui du photochromisme. Mais auparavant, quel est l'intérêt de mettre un colorant organique à l'intérieur d'un verre ou d'un hybride ? Vers polymère. Alors premièrement, vous protégez le colorant organique. Le colorant organique, c'est quand même une molécule organique qui est relativement fragile, en particulier vis-à-vis des ultraviolets, de la chaleur, etc., etc. Le fait qu'elle soit à l'intérieur d'une matrice de silice va la protéger, y compris la dureté. Si on fait des dispositifs qui sont censés être commercialisés, il vaut mieux que le colorant organique soit dans un matériau qui soit dur. Deuxième avantage, toujours le même, la forme. La possibilité de mettre en forme pour faire des films minces, pour faire des disques, pour faire des cylindres, pour faire des fibres, etc., etc. Et alors, ensuite, le colorant organique qui est à l'intérieur du verre que l'on vient de fabriquer, il n'est pas indifférent à ce qui l'entoure. Il se trouve en fait à l'intérieur d'un nanopore et il va y avoir des interactions. Et on va pouvoir jouer sur ces interactions pour améliorer les propriétés du colorant. Alors, c'est un petit peu cela que je vais développer sur un ou deux exemples. Alors juste un exemple ici de matériaux optiques qui sont fabriqués par une petite entreprise américaine. Là-dedans, c'est des colorants qui sont luminescents. Donc la photo a été prise sous rayonnement ultraviolet et c'est la luminescence des colorants organiques que vous voyez. Et vous voyez aussi qu'on peut faire des pièces moulées de tout un tas de formes qui sont parfaitement définies, qui sont parfaitement transparentes, etc. Donc qui peuvent vraiment servir pour faire des dispositifs d'optique. Alors l'exemple que je voudrais prendre ici, c'est celui-ci, celui du photochromisme. Photochromisme, ce sont des molécules organiques, vous avez ici des spirooxazines, qui normalement ne sont pas colorées, mais si vous les éclairez avec un rayonnement ultraviolet, il va y avoir une modification de la structure moléculaire, et cette modification de la structure moléculaire entraîne une coloration. Alors coloration qui est réversible. C'est-à-dire que si vous arrêtez le rayonnement, la molécule revient à l'état initial et elle redevient incolore. Donc vous connaissez tous les lunettes photochromes que l'on vend. Elles ne sont pas faites en général avec des colorants organiques à cause justement de l'incompatibilité entre le verre normal, actuel, industriel à 1000 degrés et les molécules organiques.
Donc c'est plutôt des sels d'argent que l'on utilise. Hein. Mais là, ce que l'on peut faire, c'est évidemment de mettre ce colorant dans un verre ou dans un matériau hybride, et on va pouvoir avoir cette commutation incolore colorée. Le problème, c'est le suivant. Sans entrer dans la chimie, je dirais que la forme non colorée est hydrophobe. Elle n'aime pas l'eau, c'est-à-dire elle n'aime pas les OH. Par contre, la forme colorée est hydrophile. Elle aime bien les OH. Donc, si vous la mettez dans un verre de silice fait à température ambiante à partir d'une solution, il est plein de groupements OH. Alors, le résultat, c'est que la molécule, une fois qu'elle a été colorée, se retrouve dans un port qui est très hydrophile. Elle est elle-même hydrophile, alors que la forme non colorée est hydrophobe. C'est-à-dire qu'elle va rester dans cet état excité pendant un temps relativement long. Donc, aucun intérêt pour faire des lunettes électrophotochromes ou des choses comme ça. Alors, comment peut-on remédier à cette affaire-là ? Bien, simplement en jouant un petit peu sur la chimie. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre comme précurseur un système qui n'a que des groupements OR et qui donc va donner des OH, on met des liaisons silicium-carbone qui, elles, ne vont pas être détruites lors de l'hydrolyse quand on va ajouter de l'eau. Ça veut dire qu'on accroche au réseau du verre des groupements organiques hydrophobes. Et si vous réglez cette affaire-là, ben vous avez maintenant le colorant organique qui est dans une matrice hydrophobe, et par conséquent, l'état excité coloré qui est hydrophile se trouve dans un environnement qui est hostile. C'est-à-dire que très vite, il va revenir à l'état initial et se décolorer. Par conséquent, on arrive de cette façon-là à avoir des temps de décoloration qui sont de l'ordre de la seconde au lieu d'être de l'ordre de la trentaine de minutes ou de l'heure. Donc vous voyez qu'on peut optimiser en jouant sur la balance hydrophile-hydrophobe du port. On va pouvoir jouer sur le temps de commutation en fonction de l'application que l'on souhaite développer. Alors ça, c'est un procédé qui est vendu actuellement, qui est commercialisé par Protavic, la firme Protavic à Château-Renaud, sous forme de vernis que vous déposez simplement à la surface de la lunette. Ce que l'on peut s'amuser à faire aussi, c'est la chose suivante. C'est déposer ici la couche sol-gel au bout d'une fibre optique et puis de la doper avec une molécule qui va être sensible à un réactif extérieur. Quand on dit sensible, ça veut dire qu'en présence d'un réactif extérieur, sa coloration ou ses propriétés optiques vont changer. Donc pour faire ça, il suffit de prendre le bout de la fibre optique et de le plonger dans la solution d'alkoxyde. Vous le retirez, c'est extrêmement simple, un traitement thermique relativement limité à 100 degrés, quelque chose comme ça, et ça va vous faire le capteur. Alors si cette silice est poreuse, eh bien, à ce moment-là, les molécules qui sont à l'extérieur vont pouvoir pénétrer à travers les pores, atteindre la molécule organique et lui faire changer sa couleur, sa coloration. Alors on peut de cette façon-là faire des capteurs qui sont sensibles, par exemple, aux protons, donc mesurer du pH d'une solution aqueuse, qui peuvent être sensibles à la présence d'ions lourds, du chrome, cadmium, nickel, etc., dans des eaux, dans les sols et des choses comme ça, qui peuvent être sensibles aussi à des gaz, les oxydes d'azote, du CO2, des H2S et des choses comme ça. Vous avez ici l'exemple de la réponse d'un tel capteur par fibre optique à la présence d'oxygène. S'il y a l'oxygène, la molécule, la luminescence de la molécule sous l'effet d'une irradiation diminue. Et vous voyez que l'intensité... Alors, ce que vous faites, vous éclairez, bien sûr, avec un rayonnement. La molécule se met à devenir luminescente et vous récupérez les ondes évanescentes. Hein, et vous mesurez simplement l'intensité. Et vous voyez qu'en présence d'oxygène, l'intensité émise est très faible. En présence d'azote, elle est forte. Et en présence d'air, bien sûr, c'est intermédiaire. Vous pouvez doser de cette façon-là l'oxygène qui se trouve dans l'air. Quelques applications qui commencent à se faire jour dans le domaine industriel, ça, ce sont deux firmes japonaises qui ont présenté cela l'année dernière au congrès de Yokohama. Alors, ce sont des bouteilles, tout à fait normales, mais simplement, la coloration ici a été obtenue en mettant un revêtement hybride à la surface de la bouteille, donc en plongeant la bouteille dans la solution et en laissant sécher. Alors, bien sûr, ça donne des colorations différentes des colorants classiques que vous avez quand vous achetez du champagne ou de la bière, qui peuvent être jolies, plus jolies même, puisque c'est des colorations organiques. Mais ce n'est pas là l'intérêt essentiel. L'intérêt essentiel de cette affaire-là, il apparaît lorsque vous faites le recyclage du verre. Vous connaissez tous qu'on peut recycler le verre et donc réutiliser des bouteilles qu'on va rebroyer pour refabriquer du verre sans donc avoir besoin de repartir des matières premières. Le problème, c'est que si vous prenez des bouteilles qui ont été colorées normalement, avec ce qu'on appelle des colorants ioniques, c'est-à-dire avec du fer, avec du chrome, avec du cuivre, avec du cobalt, ce sont des composés minéraux. Au moment de la fusion dans le four, ils vont rester. Et donc, avec du verre coloré, vous ne pouvez faire que du verre coloré. Alors qu'ici, comme c'est de l'organique, à quelques centaines de degrés, l'organique va brûler, et vous allez partir d'un verre coloré, en surface, et vous allez à la récupération faire du verre blanc, donc vous pourrez faire des vitrages ou le recolorer à votre façon. Donc là, l'intérêt de l'application intervient, je dirais, à une deuxième stade, dans la récupération du verre. On peut s'amuser à faire des choses encore plus jolies. Sur la conservation des œuvres d'art, alors ça, c'est la mosaïque qui est sur le devant de la cathédrale de Prague, en Tchécoslovaquie, qui est une vieille mosaïque de 3 siècles, qui, bien sûr, avec les gaz d'échappement, etc., a été considérablement abîmée, et donc il a fallu la restaurer. Donc je passe sur la restauration, on a nettoyé et tout, mais il faut bien sûr, une fois que c'est restauré, éviter que ça ne se recorrode à nouveau. Et pour éviter cela, le choix qui a été fait, c'était de déposer à la surface de cette céramique une couche d'un hybride sol-gel, silice organique, à la surface des carreaux, de façon à protéger. Donc vous voyez ça dans la conservation des œuvres d'art. Il y a aussi un produit qui sert à faire la restauration des vieux bois, où il y a, je dirais, un produit insecticide qui est à l'intérieur, vous imbérégnez, qui est aussi un produit sol-gel. Une application originale dans le domaine des crèmes solaires, qui est développée actuellement par une petite start-up israélienne à Haïfa. Alors le problème, c'est les crèmes solaires pour éviter, bien sûr, de prendre des coups de soleil avec les UV. Donc il faut mettre des produits qui sont souvent des produits organiques, qui vont servir de filtre. Ils s'étalent bien, c'est parfait. Mais le produit organique, ce n'est pas toujours bon pour la peau, et en particulier lorsqu'il est irradié aux UV, il peut y avoir des produits de dégradation, des radicaux libres, etc., qui peuvent être relativement néfastes pour la peau. Par conséquent, il faut éviter le contact direct de la peau et du produit organique. Alors ce qu'ont fait les Israéliens, c'est de mettre le produit organique dans des petites capsules, dans des petites sphères de silice faites par la méthode Sol-Gel, de disperser ces petites sphères dans une solution aqueuse, et ça se dépose comme une crème. Et évidemment, vous évitez de cette façon-là, vous évitez tout contact entre le produit organique et la peau. C'est d'ailleurs un domaine où, vraisemblablement, en cosmétologie, vous allez voir apparaître des produits sur le marché bientôt. Voilà, ça c'est au microscope électronique, vous voyez la petite sphère creuse dans laquelle il y avait le produit organique. Alors on va aller encore un petit peu plus fort, c'est-à-dire que maintenant on va aller du côté des biotechnologies. Biotechnologie, c'est donc l'utilisation soit d'enzymes, soit de bactéries, de micro-organismes pour faire des réactions, pour fabriquer des produits. Donc il faut en priori plutôt fixer ces espèces biologiques de façon à ce qu'elles ne partent pas avec le produit et qu'on puisse les récupérer. Fixation se fait en général plutôt sur des polymères ou des choses comme ça. Alors ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il est possible de fixer ces objets ou ces espèces biologiques, soit des biomolécules, soit des cellules, à l'intérieur d'un verre fait par le procédé Sol-Gel. Alors ça, c'est un schéma de bactéries, mais peu importe. Alors, premier type d'application, c'est évidemment la biocatalyse, c'est-à-dire l'utilisation des enzymes pour faire des réactions chimiques. Vous savez bien sûr que les enzymes, c'est des catalyseurs biologiques tout à fait extraordinaires qui multiplient les vitesses de réaction par des coefficients très importants, qui sont extrêmement spécifiques, etc. Et que cela, c'est dû à une reconnaissance moléculaire entre le site actif et le substrat, c'est-à-dire le système qui va réagir, qu'on appelle le modèle de la clé et de la serrure. Il y a une adaptation parfaite au point de vue de la géométrie entre les deux. Et bien sûr, c'est extrêmement sensible au site actif qui ne doit pas être modifié, déformé, dénaturé. Alors, pour travailler avec ces enzymes, il faut les immobiliser. Et les méthodes d'immobilisation qui existent, c'est de l'adsorption, c'est-à-dire simplement des liaisons faibles, un greffage covalent, donc avec une vraie liaison chimique, ou bien de l'encapsulation, c'est-à-dire de prendre ces enzymes et de les mettre dans une matrice. Alors bien évidemment, l'encapsulation, on ne peut pas le faire avec du verre, puisque le verre se fait à 1000 degrés, l'enzyme, bien sûr, ne va pas résister. Alors ce qui est intéressant avec le procédé Sol-Gel, c'est que l'on va pouvoir encapsuler, piéger des enzymes à l'intérieur d'un verre de silice, puisqu'on travaille à température ambiante. Alors la manip est extrêmement simple. Elle est schématisée ici. Vous avez d'un côté la solution d'acide silicique, le précurseur qu'utilisent les diatomées, c'est-à-dire l'alkoxyde dans lequel vous avez rajouté de l'eau, d'un côté. De l'autre côté, vous avez une suspension des enzymes dans un tampon, en général un tampon phosphate ou quelque chose comme ça, vers les pH 7.
et vous mélangez simplement les deux solutions. Ce que je n'ai pas dit, mais vous me croirez sur parole, c'est que si on arrive à pH 7, la réaction de polymérisation de la silice est extrêmement rapide. Elle va se faire en 5 ou 10 minutes. Et donc, vous allez fabriquer la silice qui va croître, se former autour des enzymes. Et comme les colorants organiques de tout à l'heure, l'enzyme va se retrouver maintenant coincée, piégée à l'intérieur du verre que vous avez fabriqué. Alors, si on travaille de façon astucieuse, on peut s'arranger pour que ce verre soit poreux et par conséquent laisse passer des réactifs à travers les pores qui vont pouvoir atteindre les enzymes. Alors, il y a eu, ça, c'est quelque chose qui a commencé il y a une dizaine d'années, la première publication. Il y a eu énormément de travaux dessus. Je vais simplement prendre deux exemples. Un exemple d'une enzyme extrêmement classique, qui est la glucose oxydase, qui a pour propriété de catalyser l'oxydation du glucose, du sucre, par l'oxygène de l'air. Alors ça, bien sûr, c'est extrêmement important dans l'industrie agroalimentaire et bien évidemment en médecine pour le diabète. Alors la réaction est écrite ici, elle est ici. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est que l'on peut utiliser cette glucose oxydase, cette enzyme, la piéger et la continuer à la faire réagir. Alors, ce que l'on peut faire, par exemple, c'est ceci, de l'électrochimie, c'est-à-dire utiliser une électrode qui va être sensible à la concentration en oxygène. Ça s'appelle une électrode de Clark. À la surface de cette électrode, vous faites un petit dépôt de silice sol-gel dans lequel vous avez mis des enzymes de la glucose oxydase. Donc, vous faites un film. Et vous plongez ceci dans une solution et vous travaillez à potentiel constant et vous regardez l'intensité en fonction du temps. L'intensité, elle dépend directement de la concentration en oxygène. S'il ne se passe rien, il y a une certaine concentration en oxygène dans la solution et l'intensité est constante. Et puis si vous rajoutez du sucre, évidemment, il va y avoir l'oxydation du glucose, consommation d'oxygène, l'intensité diminue. Et d'après la pente de la courbe qui est ici, vous pouvez en déduire soit l'activité de l'enzyme, si cela vous intéresse, soit la teneur en glucose, si vous voulez faire un capteur de glucose, donc on peut mesurer le taux de glucose dans le sang d'un diabétique ou dans un liquide industriel. Ce qui est intéressant, c'est un petit peu la courbe qui est ici, qui représente simplement, les deux courbes qui sont là, représentent l'activité de la glucose oxydase selon qu'elle est libre, c'est-à-dire on l'a simplement déposée par une méthode classique de dépôt, ou bien si elle est à l'intérieur du film sol-gel. Alors, il y a deux points importants. Premièrement, vous voyez qu'au départ, les activités sont pratiquement les mêmes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du verre, l'enzyme conserve son activité, ce qui n'était pas évident, parce qu'il suffit de très faibles déformations de dénaturation du site actif pour que la propriété catalytique disparaisse complètement. Donc, vous voyez qu'il y a eu très peu d'interactions, très peu de modifications de l'enzyme par la matrice. Mais ce qui est important aussi, c'est que vous voyez qu'au cours du temps, l'activité de l'enzyme qui est dans le verre reste constante pendant un temps qui est relativement long, qui est de plusieurs heures, dans la manip qui est ici, alors que l'enzyme libre va décroître très vite. Ce qui veut dire qu'il y a un effet protecteur. L'enzyme qui est à l'intérieur du verre fait par sol-gel est protégée du milieu extérieur, de la dénaturation, de la lixiviation, etc., etc. Donc vous pouvez la faire travailler plus longtemps. Alors sur ce principe-là, on a pu fabriquer des biocapteurs, donc destinés à déterminer la teneur en sucre dans un liquide, qui sont, comme c'est de l'électrochimie, il faut que ce soit conducteur, donc c'est des petites particules de carbone que j'ai représentées ici en noir. Vous avez les enzymes glucose-oxydase qui sont représentées ici en jaune, et tout ceci est noyé dans une matrice qui est un verre de silice, et vous faites un film mince là-dessus. Vous déposez la goutte, et vous faites simplement une mesure électrochimique qui va vous donner la teneur en glucose à l'intérieur de la goutte. Donc, vous voyez, vous pouvez faire un dispositif de dosage extrêmement simple où, avec une goutte de solution, vous arrivez à faire un dosage enzymatique. Deuxième type d'enzyme que je voudrais montrer ici, ce sont des lipases. Alors, des lipases sont des enzymes qui sont intéressantes. Elles travaillent sur toutes les réactions d'hydrolyse et stérification, c'est-à-dire le genre de réaction qui est ici. Mais disons que si on travaille dans l'eau, c'est l'eau qui va être le réactif et qui va faire des réactions d'hydrolyse et qui va transformer des esters en acides, par exemple des acides gras. Si au contraire on est en milieu organique, c'est l'estérification qui va, donc en milieu alcoolique par exemple, la réaction va aller dans ce sens-là et on va transformer des acides gras en esters. Donc c'est tout ce genre de réactions qui sont des réactions extrêmement importantes au point de vue industriel dans la synthèse organique pure et simple, dans l'agroalimentaire, dans l'industrie pétrolière, etc. Alors, ce qui est intéressant dans cette enzyme, c'est qu'elle travaille avec des systèmes où il y a à la fois des lipides et de l'eau, c'est-à-dire deux systèmes non miscibles, donc des interfaces entre les deux. Et ce qui est remarquable, c'est que l'enzyme ne travaille bien que si elle se trouve à l'interface entre la partie lipide, donc graisse, huile, je dirais, et eau. Alors elle ne travaille bien qu'à cette interface parce qu'elle a une structure un petit peu particulière. Vous avez le site actif qui est ici et puis une espèce de couvercle que j'ai représenté en jaune. Si vous êtes simplement dans l'eau ou simplement dans l'huile, le couvercle est fermé. Le site actif n'est pas accessible et ça ne marche pas. Mais si vous êtes juste à l'interface, compte tenu des interactions hydrophiles-hydrophobes qu'il y a à ce niveau-là, le couvercle s'ouvre, c'est ce qui est représenté ici, et à ce moment-là, le site devient actif. Donc il faut vraiment être dans des conditions tout à fait particulières à l'interface de ces deux milieux-là. Alors les manips que je présente ici ont été faites par Retz au Max Planck en Allemagne, consistent donc à piéger les lipases dans un gel de silice, dans un verre. Malheureusement, si on fait ça dans un verre normal, donc hydrophile, ben, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout parce que les lipases se trouvent dans un milieu OH, hydrophile, comme dans l'eau, ce n'est pas bon. Et par conséquent, la manip, là, c'est un peu comme tout à l'heure avec le photochromisme, c'est de mettre des groupements organiques hydrophobes à l'intérieur, accrochés à la silice, à l'intérieur du pore, et à ce moment-là, l'activité de l'enzyme encapsulée est 100 fois meilleure qu'elle ne le serait si elle n'était pas encapsulée. Vous voyez que vous arrivez à créer un micro-environnement qui va permettre d'exacerber les propriétés catalytiques de l'enzyme. Alors là encore, c'est un produit qui est maintenant commercialisé par Fluca. Donc ce ne sont pas que des exemples, je dirais, académiques. Alors on peut aller encore un petit peu plus loin, et pas simplement travailler sur des enzymes, mais travailler sur des micro-organismes qui vont fabriquer des enzymes ou d'autres produits. Et ce que je voudrais montrer ici, c'est ce qu'on a pu faire en encapsulant maintenant des bactéries. Alors bactéries tout à fait classiques, les Escherichia coli, qui sont bien connues. Alors, la manip, toujours, est à peu près la même. C'est-à-dire, bon, bien sûr, vous avez d'un côté la culture bactérienne. À un moment donné, quand la culture est au stade stationnaire, vous enlevez les bactéries, vous les mettez en suspension et par centrifugation, vous les séparez. Donc, vous avez une suspension des bactéries. Et vous avez simplement qu'à rajouter le SiOH 4 fois, c'est-à-dire l'acide silicique, comme précédemment. La silice va se former autour de la bactérie et les bactéries vont se trouver piégées maintenant dans un gel ou dans un verre de silice selon que vous avez plus ou moins enlevé l'eau. Alors première chose, qu'est-ce qu'il arrive à la bactérie? Parce que vous avez un gel, un réseau de solides qui se forme, ça peut faire des tensions extraordinaires, ça pourrait faire éclater la cellule. Alors ce que l'on peut faire, c'est regarder simplement en microscopie électronique à transmission, on fait des coupes fines et vous voyez ici une coupe dans laquelle vous avez la bactérie qui est encapsulée dans le verre. Alors vous voyez très bien qu'ici c'est un verre poreux, vous voyez le granulé c'est la porosité du verre, et vous pouvez voir que la bactérie est absolument intacte, que la paroi de la bactérie n'a pas été abîmée. Par conséquent, là encore, vous pouvez piéger, encapsuler, fixer un micro-organisme à l'intérieur d'un verre sans détruire du tout le micro-organisme. Alors ensuite, il faut voir si l'activité enzymatique de la bactérie continue à s'exercer. Alors, enzymatique, en l'occurrence, on a utilisé l'activité bêta-galactosidase, c'est-à-dire que la bactérie produit une enzyme, qui est la bêta-galactosidase, et pour qu'elle en produise beaucoup, on induit en rajoutant un produit organique qui est marqué ici. Et on va simplement regarder, donc on a fait cette culture, on a induit la bactérie, et on va simplement regarder si elle a son activité. Alors, pour regarder cela, c'est la réaction qui est là. Alors, l'intérêt de cette réaction, c'est que ça produit du paranitrophénol qui est jaune. Donc, une simple mesure de coloration va permettre de savoir si ça a marché ou pas marché. Donc, on prend le gel, on le broie en morceaux, et puis on verse une solution de produit qui est ici. S'il y a une activité enzymatique, eh bien à ce moment-là, la solution devient jaune. Devient jaune, c'est-à-dire que la molécule organique a pénétré à travers le gel de silice, à travers la membrane, a réagi à l'intérieur avec la bêta-galactosidase qui est à l'intérieur de la bactérie dans le cytoplasme et les produits de la réaction sont ressortis. Donc il y a bien une réaction enzymatique qui s'est produite au niveau de la bactérie, à l'intérieur même. Et ici, c'est les courbes de Michaelis classiques d'une bactérie, je dirais, libre en suspension et d'une bactérie encapsulée. Et vous voyez que c'est un comportement tout à fait typique d'une catalyse enzymatique. On peut même remarquer que dans le cas où la bactérie est encapsulée, ça marche un petit peu mieux. Et la raison vraisemblable pour laquelle ça marche un peu mieux, c'est que les bactéries, si vous les mettez en suspension, en concentration relativement élevée, ont tendance à s'agglomérer. Et quand elles s'agglomèrent, celles qui sont au milieu ne peuvent plus travailler. Elles sont masquées par les autres.
alors que là, elles sont séparées par les parois de silice et donc restent isolées, comme je l'ai montré sur la microscopie électronique. Alors, on va faire encore un pas de plus et on va aller maintenant du côté de l'immunologie. C'est-à-dire qu'on va jouer sur des réactions immunologiques antigènes-anticorps. Et par conséquent, on va essayer de voir si c'est à nouveau des opérations de reconnaissance moléculaire au niveau biologique, si ces opérations-là arrivent à se faire à l'intérieur de la matrice Sol-gel. Alors, pour regarder ça, puisque c'est de l'immunologie, si on commence à toucher au domaine médical, on a pris un parasite, un protozoaire parasite, qui s'appelle les Leishmanie, et qui est responsable d'une maladie qui s'appelle la leishmaniose, qui est relativement répandue dans les régions tropicales, et qui donne naissance soit à une leishmaniose viscérale, soit cutanée, mais vous voyez que ça fait quand même, c'est pas très joli. C'est transmis par le phlébotome, c'est-à-dire par la piqûre d'un mammifère à un autre mammifère. Alors, la question qu'on se posait, c'était la suivante. On va prendre le protiste, la leishmanie, hein. On va le prendre, la cellule donc, on va l'encapsuler et on va voir si elle conserve ses propriétés antigéniques, c'est-à-dire si elle est capable d'être reconnue par des anticorps qui, eux, vont se trouver dans le sang du patient. Alors, première chose, on encapsule, on regarde par microscopie électronique et on revoit. Là, ce sont des eucaryotes, donc des cellules un peu plus sophistiquées que les bactéries précédentes. Vous voyez que la structure cellulaire n'est pas détruite. Vous avez le noyau, vous avez la membrane, vous avez même là le flagelle. Hein, c'est les protozoaires avec un petit flagelle pour se déplacer. Donc, il n'y a pas du tout destruction. Toujours la membrane, la cellule poreuse qui est ici. Et alors, ce qui est très important dans cette affaire-là, c'est que la membrane n'est pas détruite parce que les anticorps du patient ne vont pas reconnaître le protiste en lui-même. Ils vont reconnaître certains déterminants spécifiques, certaines molécules qui sont à la surface de la membrane. Donc, il ne faut pas qu'elle ait été détruite. Alors, ce que l'on va faire, ça a été fait à la Pitié-Salpêtrière, c'est typiquement des tests sanguins classiques de séropositivité, qui s'appellent des tests ELISA, qui se font dans des plaques comme ceci, qui sont des plaques commerciales dans lesquelles il y a 96 puits, donc des tout petits puits, et on fait l'encapsulation des leishmanies, des cellules, directement à l'intérieur de ces puits. D'accord ? Donc les puits ont des leishmanies qui sont encapsulées, et on va prendre le sérum d'un patient. On met le sérum à l'intérieur des puits. S'il y a des anticorps spécifiques, c'est-à-dire si le patient est séropositif, a eu la maladie, enfin s'il a effectivement eu la leishmaniose, à ce moment, il a des anticorps spécifiques qui vont reconnaître les leishmanies et qui vont rester fixés. On lave pour éliminer tout le reste et on va mettre un conjugué qui va s'accrocher aux anticorps qui restent. Et il y a une petite sonde optique, c'est-à-dire que le système va changer de couleur, va devenir jaune ou bleu selon la nature de la sonde. Et par des mesures optiques, on va pouvoir déterminer si oui ou non le système, le patient est séropositif ou pas. Et voici le résultat que l'on obtient. En jaune, des patients reconnus comme étant séropositifs, et en bleu, ceux qui ne le sont pas. Vous voyez bien évidemment que l'intensité optique est bien plus forte, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu la réaction spécifique. C'est des manips qui se font en fonction de la dilution, et il faut que ça décroisse de façon régulière, de façon que ce soit vraiment des reconnaissances spécifiques et non pas n'importe quel type de reconnaissance. Alors, on peut même aller plus loin, et ce sont des collègues américains d'un côté et italiens de l'autre qui ont fait de l'encapsulation de cellules, alors de cellules de mammifères. En l'occurrence, ce sont des souris, et ce sont les îlots de Langerhans, c'est-à-dire du pancréas, qui travaillent avec le glucose et l'insuline. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est de prendre les cellules de pancréas d'une souris saine, de les encapsuler dans une matrice Sol-gel et de regarder s'il y avait une réponse au glucose avec l'insuline. Et donc, ils ont fait des petites boules comme ça avec les îlots de Langerhans à l'intérieur et ils ont remarqué que ça continuait à travailler. Alors, non seulement ils ont fait cela, mais ils ont fait de la transplantation cellulaire d'un organisme à un autre, donc dans une souris diabétique, et on observe que in vivo, cette fois-ci, les cellules encapsulées continue à avoir une activité au vis-à-vis du diabète. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est bien sûr tous les procédés de transplantation cellulaire qu'il y a derrière. Et la cellule, en fait, que vous avez transplantée est protégée du rejet immunitaire parce qu'il y a une porosité. Si elle est suffisamment grande pour que l'insuline et la glucose passent, mais trop petite pour que les anticorps passent, les cellules encapsulées et transplantées ne sont pas attaquées par les anticorps du patient. Alors on a pratiquement bouclé la boucle, puisque j'étais parti des diatomées, donc de ces algues dans lesquelles la cellule est encapsulée et protégée par une coque de silice poreuse de façon à permettre les échanges avec le milieu extérieur. Ben, ce que l'on a fait, c'est exactement pareil. On a encapsulé des cellules dans un verre poreux de façon à ce qu'il puisse y avoir d'une part protection et d'autre part échange avec le milieu extérieur. Par conséquent, on est presque aussi intelligent que les diatomées. Pas tout à fait. Pas tout à fait, il y a encore la forme qui est là. Et ça, c'est quelques-unes des architectures que des micro-organismes, de silice, hein, du verre, que des micro-organismes savent faire. Et j'avoue que dans mon laboratoire, on ne sait pas encore faire cela. Je vous remercie.
Oui, bonjour. Merci. J'ai, juste sur la fin de l'exposé, je n'ai pas très, très bien compris deux petites choses. La première, par rapport aux cellules de Leishmanie, j'espère que je ne me trompe pas dans le nom, pourquoi est-ce que ce test de séropositivité ne peut pas se faire quand ça n'est pas encapsulé? Qu'est-ce qui l'empêche?
Non, il se fait très bien. Non seulement il se fait très bien, mais il se fait actuellement non encapsulé, bien évidemment.
Donc, qu'est-ce que ça apporte de...
Alors, j'ai passé le transparent parce que j'étais un peu à court de temps. Donc, c'est gentil de me poser la question. Bon, premièrement, je dirais, c'est un peu l'alliance du feu et de l'eau, hein, de voir si on pouvait rendre compatibles les choses. Donc, c'est déjà un intérêt de curiosité. Intérêt potentiel. Potentiel, parce que là, il n'y a pas encore d'application. Premièrement, quand dans les tests normaux, les cellules sont simplement déposées et sont absorbées à la surface des puits, avec des interactions relativement faibles. Et quand vous faites ce genre de test, il y a à peu près une vingtaine de lavages, au cours desquels, si les cellules ne s'accrochent pas bien, elles s'en vont. Donc, couramment, il y a un tiers des cellules qui s'en vont. Donc, il y a de la perte de matériel. Si, en plus, c'est des agents pathogènes, ce n'est pas extraordinaire. Par conséquent, c'est, je dirais, plus sécurisant de les avoir encapsulés. Deuxième avantage potentiel, vous avez vu que les zones où ces maladies sont endémiques sont des zones tropicales, donc dirons des pays en voie de développement, où il n'y a pas forcément des hôpitaux sophistiqués à tous les coins de rue. Par conséquent, ce que vous pouvez imaginer, c'est la chose suivante, c'est d'encapsuler les cellules dans des petits disques ou des petits de verre, et vous les gardez au froid, a priori, dans un frigo, et vous pouvez faire le test, je dirais, dans la jungle. Vous n'avez pas besoin d'avoir une culture cellulaire prête, fraîche, pour faire le test, comme on fait en hôpital. Alors, vous allez avoir un changement de coloration qui va être visible à l'œil. Je ne dis pas que le test sera extraordinaire, mais un changement de coloration doit quand même vous alerter. Donc, c'est l'intérêt que ça peut avoir. Ça pourrait avoir un autre intérêt si on imagine des systèmes genre bioréacteurs ou des choses comme ça, parce que les petites billes de silice ont une dureté quand même qui permet de l'utilisation industrielle. Pour le moment, il n'y a pas d'application. Je dois dire que la concurrence médicale là, est extraordinaire. Les tests actuels sont très sophistiqués.
J'avais encore une petite question. Oui. Pour les transplantations cellulaires, vous dites que elles ne peuvent pas être attaquées pour un rejet, mais il va quand même y avoir création dans l'organisme de...
D'anticorps. Je ne suis pas très doué, mais je ne pense pas à partir du moment où il n'y a pas de contact. Enfin, même s'il y avait, je ne sais pas répondre à la question sur le plan biologique, je suis chimiste du solide, pas biologiste. Même s'il y a création d'anticorps, enfin, si l'organisme produit des anticorps, ils ne vont pas pénétrer. Et donc, ils ne vont pas neutraliser et éliminer les antigènes, c'est-à-dire les îlots de Langerhans en question. Ça, c'est relativement, je n'allais pas dire classique, mais c'est tous les problèmes de transplantation cellulaire, des hépatocytes ou d'îlots de Langerhans, qui se font actuellement en mettant dans des petites poches de polymère. C'est pas toujours extraordinaire parce que les polymères que l'on utilise en général sont gonflables dans l'eau. Donc puis ils n'ont pas les résistances. Donc c'est. Alors, ça évite effectivement tous les traitements immunodépresseurs ou des choses comme ça.
Oui.
Bonsoir monsieur. Vous avez dit au début que le soufflage du verre est apparu vers 100 avant Jésus-Christ, mais le verre est apparu, vous l'avez dit, longtemps avant. Comment on faisait pour souffler le verre 100 ans avant Jésus-Christ, puisque on a des pour former le verre.
Pour faire du ce qu'on appelle du verre creux.
Oui,
c'est-à-dire une bouteille. Alors, je pense que ce que l'on faisait, premièrement, le verre, j'ai remonté aux Égyptiens, ça c'est Pline l'Ancien, je crois qu'il faut aller un peu plus loin en Mésopotamie, mais enfin, peu importe. Je pense qu'on faisait un moule en sable et qu'on foulait le verre autour. On ne savait pas faire le creux par soufflage. Donc, c'était plutôt des systèmes du style moulage, un peu ce qu'on appelle le moule à la, moulage à la cire perdue actuellement. Et puis ensuite, le sable, on le sèche et puis il s'en va. Il reste le... Alors, il y avait peut-être aussi le système en poterie, je ne sais pas, en verre, qui consiste à faire des serpentins, le colombin. Mais enfin, l'idée de mettre une canne creuse dans du verre en fusion et de souffler dedans, ce n'est pas évident. Je ne sais pas comment on a trouvé, mais ce n'était pas absolument évident de prendre une paille et de souffler dans du verre en fusion. Donc je ne sais pas quel est exactement qui a trouvé et comment, mais il a fallu quelques milliers d'années, oui, c'est vrai.
Oui. Allez-y.
Est-ce qu'on peut protéger du photoblanchiment des molécules de colorant par le sol gel quand elles se trouvent dans les nanopores, moyennant fonctionnalisation?
Alors, dans ce que vous dites là, c'est d'éviter le retour à l'état non coloré,
oui,
par irradiation.
Oui.
Dans l'exemple que j'ai donné, si vous vous mettez dans une matrice très hydrophile, le retour va être de l'ordre de l'heure. Alors, je ne sais pas si c'est suffisant, mais...
Non, mais sous irradiation...
Oui, attends... En général, il y a deux irradiations. L'irradiation qui colore et le cachet, une irradiation qui décolore ou la chaleur qui décolore.
Là, je parlais de l'irradiation qui décolore. Est-ce qu'il est possible de les protéger de cette décoloration par la matrice sol-gel?
Alors, Alors, il y a deux façons. Il y a soit s'arranger pour que l'environnement soit favorable à la forme colorée et défavorable à la forme décolorée. Première chose, je dirais un problème chimique. Et deuxièmement, le cas échéant, mettre un filtre qui bloque le rayonnement décolorant. Vous pouvez imaginer de mettre un revêtement ou bien un colorant qui va absorber le rayonnement qui aurait eu, lui, l'effet de décolorer. Alors, ça dépend de la longueur d'onde, là, comme ça.
Oui, une question là. Si vous avez des questions, donc levez la main.
Pour ce qui est des unicellulaires, qu'est-ce que devient la reproduction des unicellulaires? Et au point de vue des... Est-ce qu'on a fait des essais sur des organismes pluricellulaires?
Alors, sur des organismes pluricellulaires, non. Nous, on a mis une mouche dans un sol gel, mais ça n'a pas duré longtemps. Elle a battu des ailes pendant quelques temps, mais ça, la manif s'est soldée par un échec. Sur les unicellulaires, alors bien sûr, il y a le problème, je dirais, de la vie et de la reproduction. Alors, reproduction, je crois que compte tenu du fait que la cellule est piégée dans un pore dont la taille est limitée, on ne peut pas. Il faudrait imaginer des pores beaucoup plus gros, mais à l'intérieur, je crois que ça, on ne peut pas. On pourrait si on greffe à la surface. Donc, reproduction, je dirais, sauf volontairement faire exprès, a priori, ça ne va pas marcher. Alors, la question qui se pose, et dont je n'ai pas la réponse, c'est dans quelle mesure une cellule bactérie, mettons, unique, qui ne va pas se reproduire, combien de temps va-t-elle survivre dans cette affaire-là? Et pour étudier cela, on est en train d'étudier le métabolisme de la bactérie par différentes techniques, en particulier par RMN, c'est-à-dire qu'on lui donne du sucre, par exemple, marqué au carbone 13, et on suit par RMN la formation des produits de métabolisme. Ça se produit ou ça ne se produit pas? Si ça ne se produit pas, c'est-à-dire qu'elle est morte, ou du moins qu'elle est endormie. Si ça se produit, c'est-à-dire qu'elle continue à avoir une activité métabolique. Et ça, c'est une question qu'on est en train d'étudier avec des gens de l'Institut Pasteur. Je n'ai pas actuellement de réponse définitive sur cette affaire-là. D'ailleurs, quand je pose la question à des biologistes de combien de temps vit une bactérie, pas une population, une, je n'ai pas encore eu de bonne réponse.
Oui, une question là-haut.
Pouvez-vous nous dire si l'on peut fabriquer par procédé sol-gel des pièces de plusieurs millimètres d'épaisseur? Quel sera leur retrait par rapport au moule et leur résistance mécanique?
Alors, première réponse, si c'est de la silice pure, là, ça sera difficile. C'est jouable. Il y a Larry Hensch à Gainesville en Floride a beaucoup travaillé sur cette affaire-là. Et il arrive à faire ce qu'on appelle des vers monolithiques. Il y a aussi des... Donc ça peut se faire, mais je dirais que c'est délicat. Le problème délicat, c'est le séchage. Évidemment, éviter que ça craque au séchage. Il y a un retrait, mais ça, le retrait, une fois que vous maîtrisez le séchage, vous savez de combien ça va être, il va y avoir de retrait. C'est pareil en céramique. Hein. Si vous prenez une chamotte, vous allez la chauffer, il y aura un retrait. Donc ça, c'est prévisible. Donc c'est d'éviter le fait que ça craque au séchage. Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a soit ajoute un séchage extrêmement lent, enfin, ça, ce n'est pas très, très utilisable, rajouter des produits organiques qui évitent que ça se craquelle. Et la méthode, sinon, c'est de passer par des séchages hypercritiques, c'est-à-dire au-dessus du point triple, de façon à éviter les ménisques et les tensions qui se produisent à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle les aérogels. Et ensuite, par chauffage, il y a une densification et on obtient un gel. Ceci étant, il y a des fabrications, mais très clairement, à mon avis, ce n'est pas la voie royale pour faire du verre massif. Par contre, si vous faites des hybrides, alors là, il n'y a pas de problème. Les hybrides, vous faites du massif autant que vous voulez. Vous pouvez le mouler. Et là, il y a très peu de retrait, parce que l'organique étant hydrophobe, le solvant, a priori, le gel, la pièce, quand vous la faites, contient très, très peu de solvant.
Oui. Je voudrais poser une question qui ne colle pas parfaitement avec cette conférence, mais actuellement on étudie des verres et des céramiques pour piéger des produits toxiques ou radioactifs. Que pensez-vous de ce procédé et sur quelle période de temps est-ce fiable ?
Alors, il y a des études effectivement pour confinement des déchets nucléaires avec les procédés Solgel. En France, il y a des études sur les aérogels, ce dont je viens de parler. Le procédé que l'on connaît s'appelle le procédé Synroc. Ce n'est pas des verres, ce sont des céramiques cette fois-ci, et ça a été essentiellement développé par les Australiens. Alors il s'agit là de faire des céramiques, pas des verres. La céramique a sur le verre l'avantage d'être beaucoup plus résistante à la lixiviation et toutes ces affaires-là. Et l'inconvénient de ne pas pouvoir accepter n'importe quoi. Mais il y a des procédés qui sont utilisés, hein, je pense, enfin, qui ne sont pas simplement des procédés de labo, avec des zirconates ou des choses comme ça, et c'est par du Solgel. Donc la manip, ça consiste bien sûr à dissoudre les déchets nucléaires dans de l'acide nitrique ou des choses comme ça, hein, les produits de fission, et puis ensuite à mettre ça avec un Solgel qui va prendre en masse. Hein.
Oui, allez-y.
À ce jour, quelle est la taille de l'encapsulation minimale ?
Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Savoir si quel est le diamètre auquel on arrive de façon minimale, quelle était la précision.
Si je fais une petite bille.
Oui, pour mettre dedans un enzyme ou je ne sais pas trop quoi, on arrive jusqu'à quel diamètre minimal?
Oh, je pense qu'on peut faire des petites billes de l'ordre du micron sans problème. Ça, c'est trop petit pour des bactéries. C'est bon pour des enzymes. Hein. Mais on peut faire des particules très fines par ces techniques-là. Si c'est ça votre question.
Oui, c'est ça. Merci.
Oui, allez-y.
Oui, ma question porte sur les conditions opératoires de la formation de ce manteau protecteur de silice poreuse. Donc la température, enfin elles sont très douces déjà, la température ambiante. Ma question porte sur le domaine de pH dans lequel on peut le fabriquer, éventuellement le domaine de salinité, pour apprécier un peu plus la douceur de ce procédé de protection, en particulier d'espèces.
Alors le pH est autour de pH 7, hein, c'est clair.
Ok, parfait.
Ceci étant, ce n'est pas limité par le procédé. Le procédé, on pourrait travailler à pH plus acide ou plus basique. C'est plutôt les enzymes, etc., qui marchent ou qui ne marchent pas. Hein. Donc, en général, la plupart des enzymes, c'est quand même autour de pH 7, et on reste autour de pH 7. La question que vous avez soulevée est intéressante aussi, c'est la salinité. Oui. Bien évidemment, si on ne veut pas qu'il y ait la lyse d'une cellule, il faut être dans des conditions de concentration adéquates. C'est jouable, ça. C'est un point auquel il faut faire attention. Il ne faut pas être ni trop dilué ni trop concentré. Hein. Mm-hmm. Mais c'est jouable.
Bien, je vous remercie.